Bonjour, Institut des Libertés, comme d'habitude, les Français parlent au français, non, je me marre là. Je reçois Alexis Rolston, un jeune vieil ami, ça fait longtemps qu'on se connaît, et qui vient de publier un livre qui s'appelle « L'économie science barbare, une philosophie de l'investissement », qui m'a fait, je dois dire, un grand choc. Alors, je vous explique pourquoi. Il y a quelques années, j'avais aussi fait une recension d'un livre écrit par un homme qui s'appelait Philippe Fabry, vous connaissez peut-être ?
Absolument.
Qui avait publié le Rome du libéralisme au socialisme, et j'avais trouvé ça absolument remarquable. Et j'ai eu la même sensation avec le vôtre, c'est pas souvent que je lis un bouquin dont je me dis, tiens, il va aller sur le dernier étage de ma bibliothèque. Alors, c'est l'étage, vous savez, où je mets les livres qu'il faut garder et consulter de temps en temps. Donc c'est une réflexion de la part de quelqu'un qui est profondément chrétien sur la notion, dans le fond, de ce qu'est le capital et ce qu'est l'investissement. Et vous allez chercher loin, vous allez chercher chez les Grecs, chez Aristote en particulier, vous allez chercher chez les chrétiens, Thomas d'Aquin. Et comment vous est venue l'idée d'écrire sur cette idée essentielle que, dans le fond, l'investissement, c'est le cœur nucléaire du capitalisme, c'est à partir de là que tout se passe, quoi.
Très bien, je vais vous dire en deux mots. D'abord, merci de m'accueillir.
Ça me fait plaisir. Là.
Et puis, pour ce que vous posez la question de la jeunesse de ce travail, d'une certaine manière, vous le connaissez puisque vous avez accueilli certaines de nos activités. Et en réalité, ce livre que j'ai publié en février s'inscrit dans le prolongement d'un premier livre que j'avais écrit avec un petit groupe qui s'appelle Aurette Labora, donc à titre collectif, qui s'appelle en effet « La vocation de l'investisseur à la lumière de la doctrine sociale ».
Et doctrine sociale de l'Église.
De l'Église, absolument. Et qu'on a publié en juillet dernier et qui voilà, est le fruit, disons, de ce groupe qui a maintenant une dizaine d'années, elle, lui également, et qui réunissait une petite dizaine de copains qui, au départ, s'appelaient en effet Jeunes catholiques dans la finance et dont l'objectif était de creuser le sujet de l'investissement au regard de la doctrine sociale, sujet qui n'avait pas été véritablement travaillé. Et donc on a fait ce travail, on a commencé peut-être de 2017 à 2018, d'ailleurs ici, une bonne partie des temps. On l'avait soumis d'ailleurs au Dicaster, enfin donc pour le développement intégral, donc au Vatican. Et en définitive, on a décidé de le publier à titre privé. Et dans le sillage de ce travail, donc qui était vraiment très explicitement chrétien, puisqu'il s'était agi de relire tout ce qui s'était écrit sur la question de l'investissement pour la traiter, je l'espère, de manière assez assez complète. Des pères qui coachaient ce travail m'ont incité à donner un cours, alors un propos plus laïcisé, mais d'abord à HEC puis à Dauphine, dont ce livre est une sorte et la traduction. Et avec comme fil rouge dans les deux cas, l'investissement, pour différentes raisons. L'investissement parce que c'est en effet un acte économique essentiel, c'est par ailleurs l'acte enfin, que moi, en tant que praticien, je connais un peu, donc
notre ami ici présent a financé dans le travail qu'il tient, c'est-à-dire de grandes compagnies d'assurance, toute une série d'investissements en Europe ou dans d'autres pays.
J'avais contribué à développer une société de gestion, ce que je continue à faire, ce que je vais faire d'ailleurs prochainement un peu plus loin. Mais donc, je connaissais en tant que petit praticien pour avoir monté quelques fonds. Et puis, j'avais à cœur, et j'étais un peu poussé par les prêtres de le faire, de creuser ces questions, conscient du fait qu'il y avait finalement, c'est l'objet du livre, hein, une demande de sens, notamment de la part des praticiens, mais également des jeunes étudiants, et demande de sens dans la finance, on parle beaucoup de finance d'impact, et que malheureusement, du fait, c'est un des éléments de la thèse, mais du fait, disons, de la fragmentation des savoirs et de la hyperspécialisation des cursus éducatifs, la plupart de ces étudiants que je rencontrais n'avaient pas forcément lu ni Aristote, ni René Girard, ni un certain nombre de philosophes qui jusqu'encore récemment étaient assez connus, enfin faisaient partie de la culture générale, et qui, me semble-t-il, avaient beaucoup à dire à propos de l'investissement.
Voilà, et ça c'est quelque chose de très important, c'est que vous dites qu'on arrive dans une société, et vous citez aussi le gars de Bordeaux, là, comment s'appelait-il, sur la société technicienne.
Ellul,
vous citez Ellul. Et vous dites, on arrive à des degrés de technicité très importants, où les gens savent très bien faire tourner leur tableau Excel ou n'importe quoi, mais finalement, ils se posent plus la question du pourquoi. Pourquoi faire tourner le tableau Excel? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc, c'est une recherche tout à fait intéressante pour venir à, dans le fond, qu'est-ce que c'est que d'être un financier? Qu'est-ce que c'est d'être un financier et d'être utile en tant que financier? C'est-à-dire qu'on peut dire que la finance, c'est une saloperie qui en a pas besoin, mais c'est faux. Parce que le rôle du financier, c'est de déterminer l'endroit. Il va falloir faire des investissements dans le futur qui auront une rentabilité suffisante pour payer les autres et continuer à croître, quoi. Donc c'est faux de dire qu'on n'a pas besoin du financier. Mais en même temps, des financiers qui sont complètement déshumanisés, on n'en a pas besoin non plus.
Exactement.
Et donc vous devrez ramener l'âme. Et ce qui m'intéresse, c'est que vous avez cité un grand nombre de grands esprits dans votre livre. C'est pour ça que je trouve que vous devriez vraiment, tous ceux qui s'intéressent à ce que nous faisons à l'Institut des Libertés, devraient acheter ce livre, parce que il y a à peu près une liste. Il a une liste de gens dont il parle, qui ont eu une influence sur lui, vous. Et c'est, je trouve ça très intéressant parce que vous commencez par Toynbee, dont je parle fréquemment, puis vous continuez par Brodel, qui a eu beaucoup d'influence, Schumpeter, ce qui est rigolo, Perfit, dont je cite moins souvent, mais puis là vous citez un gars dont j'avais jamais entendu parler, mais que je vais certainement lire, qui s'appelle Joseph Tendler. Et puis vous investissement et philosophie, ce qui est la deuxième partie de votre livre, vous parlez de l'investissement chez les Grecs, l'investissement dans la Bible, toutes choses dont je parle ici assez fréquemment, quoi. C'est assez rigolo, c'est-à-dire que on voit que quelqu'un qui cherche à faire un parcours intellectuel finalement retombe sur les mêmes que ce soit vous ou que ce soit moi, finalement j'ai beaucoup lu, mais à la fin d'une vie je suis arrivé à tous ces noms, quoi, et vous les avez dès le départ, donc c'est très très intéressant. C'est qu'est-ce qu'ils ont de commun, ces gens? À votre avis, pourquoi sont-ils dans votre livre et pourquoi m'ont-ils intéressé, moi?
Ouais, non, bonne question. Effectivement, je me la suis jamais vraiment posée en ces termes. Alors, ce qu'ils ont intéressant, c'est qu'ils ont d'une manière ou d'une autre parlé de l'investissement, mais une fois de plus, l'investissement est un prétexte à une réflexion qui déborde l'investissement, tout en étant bien conscient du fait, comme vous le disiez, que l'acte d'investir est matriciel et qu'il est central dans l'activité économique.
Mais en même temps, je me dis que peut-être ce gars-là, je vais essayer de répondre à la question que j'ai posée, mais pour moi, ces gars-là, ils ont quand même une espèce de respect pour l'individu. Peut-être pas Brodel, mais pour le type de l'individu, c'est l'entrepreneur de Schumpeter, si vous voulez, qui change le monde.
Ouais.
C'est pas les masses. C'est une vision de l'histoire qui est faite par des gars qui sortent et qui sont différents, je sais pas. Donc c'est une vision de l'histoire un peu à la fois globale et individualiste.
Oui, c'est vrai, ils ont en commun. Alors, vous disiez que au départ, j'avais, disons, il y a une lecture chrétienne de ce livre, même si ce livre n'est pas spécialement chrétien autant que l'avait été le précédent. Mais bon, malgré tout, il y a quand même un certain nombre d'auteurs, qui se réfèrent du christianisme. Et donc, ce qui pourrait expliquer, en effet, et là c'est votre analyse, hein, tout ça est très chargavien finalement, que la personne est au cœur de la réflexion. Donc assez naturellement, je m'intéresse à des auteurs qui eux-mêmes ont placé la personne. Alors avec des points de vue assez différents. Typiquement Brodel, lui, il se fiche un peu de la personne parce qu'il fait confiance à l'histoire longue et
aux tendances lourdes. Allez.
Voilà. Mais d'ailleurs, l'exercice que fait Perfit à la fin dans sa société de confiance, et qui est la fin de mon chapitre, c'est justement, il met en perspective toutes les différentes analyses qui ont été faites de l'histoire du capitalisme, et chacune ayant, disons, son une hypothèse, un présupposé un peu plus solide. Donc chez Brodel, c'est le capital, chez Schumpeter, en effet, c'est vraiment la personne, l'entrepreneur, lui-même étant, disons, est très, très chrétien. Donc ce qui est commun entre ces gens, je ne saurais pas vous dire vraiment. Pour moi, c'était un peu un parcours de lecture, c'est une des vertus, une des raisons pour lesquelles je m'étais senti autorisé à écrire ce livre, parce que je ne suis pas spécialement fan de l'exercice d'autopromotion, et même me permettre de dire quelque chose était quelque chose qui était après tout une action qui me paraissait pas légitime jusqu'à ce qu'on me contraigne à le faire. Et maintenant que je suis là, je le fais, je quitte à faire des vidéos, mais pour moi c'était vraiment en contre-nature. Mais après tout, il y a suffisamment de conneries qui se voient à peu près.
Oui,
tout,
mais là c'est vraiment le parcours d'une réflexion qui a été essentiel à notre civilisation. C'est ce que les gens comprennent pas très bien, c'est qu'il y a, ça commence avec l'acte d'épargne. Puis de l'acte d'épargne, il faut ensuite savoir ce qu'on va faire de cette épargne. Mais c'est pas celui qui épargne qui automatiquement va être chargé de l'utiliser. Donc il faut qu'il y ait des gens qui se mettent au milieu, qui sont les financiers, qui feront la mutualisation du risque. Enfin bref, il y a toute une vision de la société. Et ce que je me tue à dire aux gens, c'est que pour moi, épargner, c'est une façon de donner du travail à des gens dans le futur qui vont faire des choses qui n'auront pas une rentabilité immédiate. C'est-à-dire que c'est vraiment un pari sur le fait que le futur sera meilleur que le présent, quoi. Parce que si le futur n'est pas meilleur que le présent, vous n'avez pas besoin de donner votre épargne à quelqu'un, vous la gardez.
Oui.
Et donc, vous avez une vision positive. Vous vous posez, vous épargnez d'un côté, de l'autre côté, vous allez chercher une amélioration qui sera une amélioration globale pour tout le monde. Je trouve ça, c'est une démarche parfaitement légitime.
Oui, oui. En effet, une des raisons pour lesquelles l'acte d'investissement est un très bon prétexte à une réflexion même métaphysique, c'est parce qu'il suppose un rapport au temps. Et là aussi, je crois d'ailleurs que je dois terminer ce livre sur la question de la foi qui est nécessaire à l'acte d'investissement. Et en effet, moi, ma recherche personnelle et ce que je cherchais certainement dans ces ouvrages dont je fais une recension un peu arbitraire et parcellaire, c'était une propre interrogation. Qu'est-ce qui peut nourrir ma propre compréhension de l'instant présent et de mon futur, et donc de ma destinée en tant qu'individu avec l'investissement.
Donc vous pensez qu'on peut avoir des maîtres dans le passé, que c'est pas inutile?
Justement, je pense que rien ne se... Fondamentalement, je vous apprendrai encore rien, mais tout a déjà été dit.
Oui, mais oublié aussi.
Ouais, et oublié volontairement, d'ailleurs, dans certains cas. Et oui. Ce qui est un point de départ de l'âme barbare, et Alan Bloom, vous l'avez dit aussi, c'est le fait que les humanités ont disparu pour tout un tas de raisons assez documentées aujourd'hui, et c'est paradoxal quand on veut chercher du sens et la finalité. Donc il faut rechercher, renaître en quelque sorte les trésors
qu'on a fait dans le passé. Mais c'est très intéressant, cette histoire des humanités ont disparu, mais ils ont disparu pour être remplacés par une espèce de nouvelle religion qui est l'humanisme. C'est-à-dire que c'est une façon de transformer l'homme en Dieu. C'est-à-dire on n'a plus besoin d'apprendre les humanités, c'est-à-dire comment comprendre le monde. Il faut se mettre dans l'humanisme, qui est une façon de considérer que l'homme est sa fin à lui-même, ce qui est une drôle d'idée. Et c'est pas grave, les mots sont très proches, mais ils veulent pas du tout dire la même chose.
Il y a en effet un certain humanisme, donc l'humanisme d'ailleurs sans Dieu, on trouve ça chez Benoît XVI, Caritas in Veritate, est inhumain. Une des vertus de ce travail de recherche, alors que j'essaie de rendre un peu clair, pédagogique et appliqué à quelque chose assez facile à comprendre, qui est en effet l'épargne et qui concerne tout le monde, c'est qu'il y a des choses qui ont été dites sur la nature humaine qui sont donc universelles et intemporelles, et qui s'appliquent à un acte aussi trivial que l'investissement et auquel on n'a pas nécessairement pensé. Notamment du point de vue historique, parce qu'il y a une partie du livre sur l'histoire, et ce qui m'a intéressé dans le fait de reciter Toynbee, Brodel, etc., c'est de dire que toutes les réflexions philosophiques sont déterminées d'un point de vue historique, et que même aujourd'hui, et je termine par Tainter à ce propos, quand on s'interroge sur quoi que vous en pensiez, moi-même, j'ai pas de parti pris là-dessus, mais sur la crise, en tout cas, la crise écologique, ou en tout cas, les risques d'un modèle déséquilibré, ou excessif, ou ce que vous voulez, même si je ne parle pas du tout de finances climatiques, en tout cas, on est conscient qu'on est à un stade d'un développement un peu critique, et l'histoire des civilisations nous enseigne qu'elles peuvent périr, et qu'elles ont toutes péri pour des raisons que ces historiens exhument.
Et oui, parce que vous dites, vous faites une remarque qu'on va faire aussi, c'est que l'économie, ça n'est jamais que de l'énergie transformée. Donc si on a un problème avec l'énergie, on a un problème avec l'économie. Donc là, on retrouve les contraintes. Ouais. Donc il faut aussi traiter le problème des contraintes de façon rationnelle. Et c'est une forme d'investissement aussi, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Et donc, de toute façon, ce qui est intéressant, c'est que l'investissement qui permet, donc qui est en effet de l'énergie transformée, du capital réemployé, s'il n'est pas fait à bout d'escient, et si on ne respecte pas, pour citer Toynbee, cette loi historique d'apporter de bonnes réponses et des défis, notamment énergétiques, l'histoire nous apprend que le système s'effondre.
Que les civilisations sont mortelles.
Voilà. Et que chez Tainter, alors ça, je pensais que vous le connaissiez, ou c'est peut-être, je pensais que c'est vous qui me l'aviez fait rencontrer ou pas,
moi
j'aime beaucoup cet historien, qui a sorti ce livre en 87, sur, l'effondrement des systèmes complexes, et donc il exhume de l'analyse d'une vingtaine d'exemples de civilisations qui se sont à un moment ou à un autre effondrées une loi qui est tirée de la loi des rendements marginaux décroissants. En gros, il dit que au-delà d'un certain degré de complexité, et le principe même de la civilisation, c'est de tendre de se complexifier. Si on n'assure pas donc les rendements marginaux décroissent, donc ça c'est les physiocrates, on sait ce que c'est, et si on n'assure pas d'une certaine manière une réponse à ce défi, et donc une, par exemple, une source d'énergie abondante qui assure de gérer la complexité, on s'effondre. Et donc, au-delà d'un certain stade, l'énergie qui est absorbée par le système pour se maintenir lui-même en vie, et la transposition politique, ce serait l'Union européenne à certains égards. Ah ben, le truc se pète la gueule. Et ça, c'est je trouve ça très éclairant
et pertinent. Et on retrouve un petit peu Schumpeter, c'est-à-dire que et on arrive et puis on a une nouvelle, un type qui arrive avec une nouvelle invention qui permet d'aller à un niveau de complexité plus élevé. Mais si on n'arrive plus, s'il y a plus de gars qui arrivent avec l'invention, et
l'histoire nous enseigne qu'on s'effondre. Et
c'est souvent à cause des élites qui n'ont pas fait leur boulot.
Ah ben voilà, et notamment, chez Toynbee, il y a dans tous les cas, et c'est fascinant de voir à quel point ils ont des lois historiques, et c'est ce que j'aime bien aussi chez Philippe Favry, c'est qu'on établit des analogies avec des situations qui n'ont rien à voir. Cet effondrement, si on entend la situation comme le degré de complexité, l'effondrement, ça n'est que, en quelque sorte, le retour à un moindre niveau de complexité. Il y a plein de traductions dans les chaînes économiques,
tous ceux qui étaient dans les niveaux de complexité les plus élevés, eux, ils en prennent plein la tête.
Et généralement, ça se passe sans douleur, mais voilà. Et donc, pour faire le lien avec l'investissement responsable, tel que je l'ai mentionné à quelques points, mais pour contextualiser mon propos, je pars du constat et je développe ça dans mon petit cours que la finance responsable se développe avec toute une série de traductions, notamment normatives, etc. Donc les investisseurs sont incités à verdir leur portefeuille, investir dans ce qui est responsable, etc. Et ça, c'est une réponse. Ça au moins se mérite, et je ne prends pas parti sur la finance climatique, tous ces trucs-là, de suggérer ce que j'appelle une approche intégrale, parce que le caractère d'intégralité revient très souvent, qui lui-même est une transposition du concept de développement intégral à la finance, donc réintégrer les externalités, et donc une approche politico-historique, et qui vise notamment à s'interroger sur la finitude de nos propres systèmes. La finance responsable, si on sent qu'elle suscite un intérêt particulier aujourd'hui, c'est parce que les gens sont tous un peu confusément habités par l'idée que on va vers des temps compliqués, quoi qu'on en pense, et parce qu'on est potentiellement confronté, et après on l'est toujours, enfin c'est le propre de l'interrogation métaphysique, à sa propre mort en tant qu'économie, en tant que système, ou à son affaiblissement, comme c'est le cas en Europe, au bénéfice d'autres. Donc c'est intéressant de juste regarder ce qui s'est passé via ces auteurs, Rome jusqu'au Maya, etc.
Avec Venise, ça s'est passé. Voilà. En général, les voies de communication se détournent. Vous voyez la campagne française, moi je connais un peu la Gascogne, d'un seul coup ils ont fait une autoroute qui allait de Toulouse à Pau, vous savez, bon. Et donc, plus personne ne passe par toutes les petites villes où on passait avant, elles sont toutes mortes. Donc, c'était très bien d'aller très vite de Toulouse à Pau, mais avant ça, on était obligé de passer par Auch, par Tarbes, enfin, il y avait. Et on a fait des investissements qui sont peut-être très bien, mais qui peut-être pas iraient responsables.
En tout cas, on pourrait se poser la question.
C'est les externalités dont vous parliez tout à l'heure.
Tout à fait. Et j'ai pas de solution à apporter à qui que ce soit, sinon,
d'y réfléchir.
En soi, une source d'espérance, c'est-à-dire qu'il suffit de passer un peu de temps, de lire, de regarder de bonnes vidéos, cas échéant, mais de s'intéresser à ce à quoi on s'intéressait par le passé, notamment l'histoire, pour y trouver une richesse.
On va conclure, absolument, et on va conclure là-dessus, parce que ce que vous dites, c'est que dans le fond, ces problèmes que nous nous posons, il y a des gens qui se les posent depuis, 2500 ans, quoi. À peu près, avec Aristote. Et c'est pour ça que je ne saurais trop recommander ce livre, parce que c'est, dans le fond, tous les auteurs que j'ai aimés, il y en a peut-être un ou deux qui ne sont pas là, mais c'est pas grave.
René Girard aussi, que je cite.
René Girard, vous en parlez beaucoup, et pour moi, quand je l'ai lu, j'ai eu un choc. Et donc, vous avez ça, et c'est une espèce de... C'est pas une filiation entre eux, mais c'est comment vous les reliez qui est très intéressant. Vous les reliez au travers d'une réflexion qui est un peu au-dessus d'eux. Donc je trouve ça parfaitement intéressant. Et honnêtement, je le dis avec tout le... C'est comme le livre de Philippe Fabry. C'est un livre qu'un honnête homme qui essaye de réfléchir sur ce qui se passe dans le monde devrait avoir, ne serait-ce que pour guider sa façon de penser. C'est un peu... vous avez écrit un guide Michelin de la pensée sur l'investissement, vous savez où il y a les trois étoiles, quoi. c'est pas mal.
Oui, il y avait un peu de ça.
Il y a un peu de ça, c'est très bien fait, c'est très bien écrit. Vous avez une écriture qui est un peu 18e, mais ce qui est tout à fait charmante, que j'aime bien. Et voilà. Et donc, encore une fois, je voulais vous remercier d'abord de me l'avoir donné, de me l'avoir dédicacé, et puis de l'avoir écrit surtout, parce que Il fallait le faire, ce livre. Ça m'a fait plaisir de vous avoir ici. Ouais, et merci. N'hésitez pas. Et puis, écrivez-en d'autres parce que vous avez du talent. Ben, merci beaucoup. Hein.
Très bien, ben merci.